Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
J'ai frôlé le burn-out en 2020 lors de ma première année d'entrepreneuriat. Je me suis mise littéralement à pleurer. Et pour moi, c'était le déclic. Je me suis dit, mais à ce moment-là, il y a véritablement un problème.
Le chef d'entreprise gère bien son entreprise, mais il oublie de se gérer lui-même. Commencer à parler, c'est tout d'un coup perdre le statut de chef. Il énonce quelque chose qui ne va pas pour lui-même.
Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être les premiers à éduquer, à alarmer nos salariés et leur dire, hey, la santé mentale, ça commence par nous. Il faut en parler entre nous.
Quand on devient entrepreneur, il y a une envie. Et puis, il y a des jours où peut-être on n'a pas envie. Et au lieu de chercher à se forcer, je pense que c'est un signal hyper intéressant pour se dire j'ai besoin d'un break.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver dans l'épisode 4 du podcast des indépendants sur BFM Business. Sexualité, consommation d'alcool, vie sociale, forme physique. Aujourd'hui, on parle santé mentale et conséquences concrètes, toujours dans la bonne humeur, avec 4 invités.
Tiana Mayembe. Coach certifié depuis 5 ans, Tiana aide les professionnels de haut niveau issus d'entreprises comme HSBC et Air France à transformer leur confiance en un levier de succès. 100 000 abonnés la suivent. Joseph Amani, fondateur du média On parle de tout avec 1 million d'abonnés. On y parle santé mentale des jeunes en France avec des personnalités dont de nombreux champions olympiques. Troisième invité, Magali Siméone, fondatrice de Lily Facilite la vie, qui fait de la protection de la santé mentale une priorité avec des accompagnements personnalisés pour des milliers de salariés et dirigeants. Enfin, François Mullet, médecin généraliste, homéopathe et conférencier enseignant.
Bonjour à tous.
Bonjour. Allez,
bonjour. Bonjour Ludo.
Je suis ravi de vous recevoir pour parler de ce sujet qui est la santé mentale. Et j'avais envie de commencer cette émission, Joseph, par une anecdote que tu m'as racontée quand tu étais à Station F. Tous les jeudis, il y avait un peu un rendez-vous régulier. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Et oui, tout à fait. Un rendez-vous qui touchait pas mal la santé mentale, parce que Station F, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un incubateur d'entrepreneurs à Paris, où j'ai fait un petit tour il y a quelques années. J'arrive là-bas avec ma boîte, tout se passe bien, je sympathise avec tout le monde, très tchatcheur, et je deviens le confident un peu des collègues. Et je dis, on est jeudi, venez, on va boire une bière. Et la bière du jeudi est devenue un petit rendez-vous quotidien.
Et c'est pendant cette bière que tu te rends compte que les langues se délient.
Ah ouais, tout à fait. Parce qu'au début, on parle de tout et de rien. Et puis petit à petit, j'adore poser des questions un peu intimes, axées sur la santé mentale. Et là, en fait, pour te parler des profils, on va en retenir que trois. Il y a trois profils qui m'ont vraiment marqué. Un de mes collègues qui nous confie qu'en fait, depuis qu'il a créé sa boîte, il s'isole, il dort mal, il est anxieux. Les seules personnes qu'il voit, c'est ses collègues de travail et sa mère. Et ça, depuis qu'il a monté sa boîte.
Et il se libère avec cet échange finalement informel, parce que c'est vrai que c'est pas évident de parler santé mentale. Alors, c'était peut-être encore pire avant, puisque ton anecdote, elle date de quelques années. Mm-hmm. Aujourd'hui, on sent que le sujet quand même se libère et on sent qu'on en parle plus aisément, plus facilement, mais ça reste quand même encore compliqué. Et petit à petit, les confidences vont encore plus loin. Hein.
Et les confidences vont encore plus loin. On était vraiment un groupe mix. Je suis content de dire que la santé mentale, ça touche autant les femmes que les hommes. Et par exemple, il y avait une collègue qui était mère de famille et qui nous racontait que depuis qu'elle avait monté sa boîte, mais le niveau de stress avait augmenté énormément, elle avait du mal à tout gérer, ça jouait sur sa vie sentimentale, sur sa vie sexuelle avec son mari, et les discussions continuaient. Et je me rappelle même d'un mec, donc on l'admirait tous, il avait levé 3 millions d'euros, ce qui est très très beau dans le milieu start-up, et qu'en fait il nous avouait que ça l'avait rendu encore plus malheureux. Et tu le vois, il arrivait avec des grosses cernes le matin, il était nerveux toute la journée, et derrière tout cet argent gâché, au final, il n'était pas plus épanoui.
Le premier message qu'on pourrait donner dans ce podcast, c'est que c'est normal. C'est normal de se questionner sur sa santé mentale et c'est normal de mettre sa santé mentale un peu à l'épreuve finalement quand on crée son entreprise, parce que créer une entreprise, de toute façon, ça nous sursollicite. On est obligé d'être absolument partout. Et c'est normal au début de ne pas savoir forcément gérer et de sentir qu'on ne se sent pas forcément bien, qu'on sent qu'on a un impact en termes de santé mentale. C'est vraiment quelque chose finalement, j'ai envie de dire, de banal. Alors le problème de ne pas écouter sa santé mentale, on va le voir avec toi Tiana, c'est qu'on peut aller jusqu'au burn-out.
Oui, à vrai dire, j'ai frôlé le burn-out en 2020 lors de ma première année d'entrepreneuriat. Parce qu'à l'époque, en fait, j'étais très malheureuse, un peu emprisonnée dans une routine qui ne m'enthousiasmait pas du tout. Mais malheureusement, je me suis dit, c'est normal dans les débuts de se donner à 100%, de sacrifier en un sens.
On banalise quoi.
Exactement, donc j'avais toujours ces croyances en fait, qui tournaient dans ma tête et qui me poussaient en fait, à ignorer les signaux que m'envoyait mon corps. Et finalement, malheureusement, plus je travaillais, plus l'anxiété montait et la pression de la performance aussi que je me donnais en fait malheureusement me prenait un peu au corps quoi.
Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent probablement qui disent c'est normal cette saturation, c'est normal ce trop plein de travail, c'est normal ce sentiment d'être débordé, c'est normal cette fatigue émotionnelle, je suis entrepreneur et on va le voir aussi dans cette émission, c'est assez banal, mais on peut mettre en place des choses justement pour pas rester comme ça et pour pas aller jusqu'au burn-out. Parce que tiens là, c'est quoi concrètement un burn-out ?
Pour moi, en fait, ça se traduit en tout cas par des moments où tu es anxieuse, où tu travailles, mais tu ne te sens plus forcément portée par le sens de pourquoi tu travailles. Et dans mon cas de figure, ça s'est traduit littéralement par un jour, je tapotais sur mon ordinateur, comme d'habitude, et je me suis mise littéralement à pleurer. Et j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter. Et pour moi, c'était le déclic. Je me suis dit, mais à ce moment-là, il y a véritablement un problème. Et c'est là que je me suis déconnectée de mon travail.
Là, c'est le trop-plein, c'est la saturation. Et là, on en vient carrément, docteur, à une situation médicale. Il faut aussi le rappeler. Et c'est pour ça que c'est important de vous avoir ici. Je vous vois parce que vous êtes docteur, je ne peux pas m'empêcher. Mais c'est important de vous avoir ici parce qu'il y a aussi cette question médicale. On va parler d'organisation, etc. Mais il y a vraiment un point de vue médical, docteur Mulet.
Oui, c'est vrai que la question du burn-out est très souvent galvaudée. Quand les gens consultent pour un burn-out, c'est très souvent un stade extrêmement tardif. Et le burn-out, c'est un état vraiment dépressif, avancé, évolué, avec hélas un risque de passage à l'acte, un risque de suicide, disons les choses. Et très souvent, les gens disent « Oh, je suis au bord du burn-out, ou j'ai effleuré, ou je suis passé par une phase de burn-out. » C'est bon, ils sont pas bien, il y a un mal-être, ils sont surmenés professionnellement, sans doute. Mais le burn-out, c'est vraiment une mise à l'arrêt. C'est dangereux, c'est un état de gravité absolue. Sur le plan médical, ça répond à des critères très stricts du diagnostic. Le burn-out, c'est un diagnostic médical de pathologie psychiatrique, parfois lourde, parfois avec de graves conséquences, ce qui nécessite un traitement spécifique.
Et là, on parle du burn-out, mais on pourrait plus, même avant d'aller au burn-out, on a un effet sur le corps quand on parle de santé mentale. Vous m'avez expliqué ça en préparant cette émission pour rappeler quand même aux auditeurs, encore une fois, que c'est quelque chose de physiologique, de physique, de chimique.
Il y a un processus biochimique d'évolution des neuromédiateurs qui sont des hormones fabriquées par le corps humain et qui accompagnent les différentes phases d'évolution de la dépression, de l'anxiété. Ça me pose des questions ce que disait notre ami Joseph par rapport à la consommation d'alcool. En fait, la question se pose pour les chefs d'entreprise, à quel moment ils vont consulter et s'ils n'avaient pas bu d'alcool, est-ce que finalement ils en auraient dit quelque chose de leur existence ? L'alcool, c'est un psychotrope puissant qui permet effectivement de délier l'élan comme vous l'avez dit, Ludovic, c'est une opportunité pour eux saisie d'avoir une oreille attentive, mais aussi de l'effet biochimique de l'alcool. La question, c'est à quel moment il aurait fallu peut-être qu'ils consultent avant même de boire de l'alcool. Comment ils peuvent repérer qu'eux-mêmes vont mal.
Magali, avant de consulter, on peut déjà intégrer dans son quotidien finalement des bonnes pratiques. Tu me disais en préparant cette émission, écouter son corps, faire de l'activité, se dire « Ok, je vais me promener, même si je n'ai pas envie, j'ai cette discipline de marcher 20 minutes par jour. »
Tiana l'a dit, elle a dit « J'ai ignoré les signaux de mon corps. » Donc je pense qu'on est tous conscients que notre corps nous parle et en tant que chef d'entreprise, on est censé être fort. Donc entendre qu'on a mal au dos, ça peut être vu comme un signe de c'est vu comme un signe de faiblesse. Et donc le « sois fort » est très puissant chez les chefs d'entreprise. Alors oui, on sait que si on met en place des rituels qui nous font du bien, eh bien, ça va abaisser, entre autres, la production des hormones dont parlait notre ami docteur. Et ça, c'est hyper important parce que c'est physiologique.
Mais c'est quoi ? C'est des choses très simples ?
Oui, mais alors, je pense qu'il faut se forcer, mais pas trop se forcer. C'est-à-dire, il y a un espèce de truc, on est déjà beaucoup dans l'effort. Et donc, c'est hyper important, déjà, de trouver ce qui nous fait du bien. Et selon les personnes, ça ne va pas être les mêmes. Moi, je déteste courir. J'ai essayé. On m'a dit, tu vas voir. Non, je déteste courir. J'aime marcher. J'aime faire du pilates. J'aime faire du yoga. On a chacun nos trucs. Et c'est hyper important. Il y en a, ça va être d'être allé en salle. Il y en a, ça va être de cuisiner, de trouver ce truc qui va abaisser le niveau de ces hormones dans notre corps qui ne sont pas bons pour nous.
Ce que tu dis, Magali, est très important. C'est arrêter d'écouter, on vous dit qu'il faut courir, ou faut faire telle activité. C'est prenez le temps d'identifier ce qui vous fait vibrer finalement, ou c'est moins un effort et plus un plaisir.
Exactement. Ça peut jouer de la guitare. En fait, ce truc de faire des efforts tout le temps pour être une meilleure version de nous-mêmes, je pense que c'est ce qui emmène aussi à l'épuisement. Parce qu'il faut qu'on boive un coup pour se dire... je suis fatiguée. Alors qu'il faudra admettre, c'est une émotion qu'on peut admettre, je suis fatiguée, j'en ai marre. Je veux dire, gérer une boîte, il y a des matins, on se lève, on se dit, mais j'aurais bien envie de faire autre chose.
Finalement, il y a cette question d'identifier quelque chose qui nous fait vibrer pour se vider la tête, arrêter de se mettre des injonctions, il faut faire telle activité, tant de temps, et la Miracle Morning, etc. Parce que c'est de la discipline.
C'est insupportable.
C'est des obligations sur des obligations, quoi.
C'est insupportable.
Le chef d'entreprise gère bien son entreprise, a priori, il est là un peu là pour ça, mais il oublie de se gérer lui-même.
Oui.
Et c'est, à un moment donné, s'autoriser à. Commencer à parler, c'est énoncer une certaine faiblesse, effectivement. C'est tout d'un coup perdre le statut de chef. Il tombe un peu de son piédestal et il énonce quelque chose qui ne va pas pour lui-même. Et ça, ce n'est pas dans sa culture, ce n'est pas dans son paradigme de vie.
Oui, donc en fait, on est quand même habitué, pardon Magali, ouais. On s'habitue en tant que chef d'entreprise à se mettre des obligations, à se mettre des contraintes, à se dire il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, à se militariser presque dans son quotidien.
On a aussi le sentiment que, c'est ce que notre entourage attend de nous, c'est-à-dire les investisseurs, les équipes, les clients. Normalement, il y a ce côté, on est tout puissant. Et ça, c'est sûrement le syndrome le plus dangereux, je pense, la tout-puissance.
Ouais, on se sent invincible jusqu'au moment où, Tiana.
Moi, j'aimerais quand même rebondir sur l'une des erreurs que font très souvent les indépendants et qui pèse lourd sur la santé mentale, c'est le fait de se poser chaque jour des objectifs journaliers basés sur notre volonté et pas sur nos capacités réelles. Et je sais qu'on a tendance à dire, si on travaille dur, si on s'organise bien, on peut tout accomplir, on peut tout faire, probablement. Mais si on veut vraiment avancer vers nos objectifs avec plus de sérénité et moins d'épuisement, je pense qu'il y a quand même une question importante à se poser chaque matin, avant de passer à l'action, et c'est, est-ce que j'ai les ressources énergétiques, le temps, la capacité mentale d'accomplir tout ce que je viens de planifier ?
Très intéressant. Mmh. Et c'est là où on voit qu'il ne faut pas confondre le temps et l'énergie.
Exactement. Mmh.
Joseph.
Ouais, moi, si je peux me permettre, je pense que le gros problème de la santé mentale, il vient un peu de la vulnérabilité, de l'ego et de l'éducation qu'on a dedans. Ouais. Parce que je pense que quand on monte une boîte, c'est normal des fois de ressentir beaucoup de fatigue, de mal dormir, peut-être d'être un peu anxieux. Mais le gros problème, c'est de ne pas en parler et que ces symptômes s'aggravent au fil du temps, comme j'ai pu voir dans mes différentes boîtes. Et là, on peut plonger vers le burn-out. Et là, il y a des vrais symptômes qui s'aggravent. Mmh. Et je pense que le plus important, c'est justement de s'entraider, de s'éduquer à dire « Ok, l'entrepreneuriat, c'est bien beau, mais pour tenir au long terme, t'es obligé de libérer la parole, sinon tu tiens pas mentalement. »
Oui, c'est vrai qu'il y a cette nécessité, effectivement, de parler librement du sujet, docteur.
Oui, très important aussi ce que dit Joseph. Et je me disais, quand l'entrepreneur consulte, en général, il est demandeur de mettre en place quelque chose, de décider quelque chose de nouveau pour lui-même, pour ne pas recommencer de la même manière. Or, c'est pas ça. La solution, c'est pas de remettre en place des nouvelles initiatives, c'est plutôt d'être dans le lâcher-prise, la musique, le coaching, le sport, énorme. Des moments de lâcher-prise absolue, il va renouer quelque chose avec lui-même, avec ses propres désirs et redonner du sens à ce qu'il fait. Mais pas forcément prendre des initiatives. Je vais organiser mon temps comme ceci, je vais changer d'agenda, je vais prendre un suppléant pour me venir en aide.
C'est marrant, on voit que le mot-clé depuis le début de l'émission, c'est lâcher prise. Moi qui n'ai jamais traité de santé mentale et qui suis entrepreneur, pour moi c'était plutôt une question de discipline. J'ai même parlé de discipline sociale, me rendant compte que je ne sortais pas assez, je ne sortais plus vraiment, puisque je suis très occupé à travailler, eh ben je me rends compte que j'ai moins de vie sociale. Et j'ai parlé de discipline sociale. Ça a fait beaucoup rire mon meilleur ami qui m'a dit « Tu te rends compte ? Tu te mets encore une injonction, etc. » Et alors que le vrai mot, c'est lâcher prise. Magali.
C'est lâcher prise et puis c'est aller vers ses envies. C'est-à-dire que quand on devient entrepreneur, il y a une envie. Et puis il y a des jours où peut-être on n'a pas envie. Et au lieu de chercher à se forcer, je pense que c'est un signal hyper intéressant pour se dire « J'ai besoin d'un break. J'ai besoin d'un week-end. J'ai besoin d'aller marcher au bord de la mer. » Chacun a son type de break. Mais l'envie, elle va revenir si on ne cherche pas à la forcer. Et ce terme de lâcher prise, il est à la fois très intéressant et en même temps, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas une nouvelle injonction. Ce comment je lâche prise, ce n'est pas si simple.
Enfin, d'accord, mais il faut quand même à un moment donné prendre des décisions parce que si effectivement on n'est pas dans une forme d'action pour dire comment est-ce que je fais attention à ma santé mentale, comment est-ce qu'à un moment donné je lâche prise, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, il ne se passera rien, Magali.
Je suis d'accord, mais je pense que la première chose à faire, c'est avoir dans son entourage un tiers de confiance. Un coach, un coach sportif, un psy, un thérapeute, un mentor. C'est ce tiers qui va aussi pouvoir tirer la sonnette d'alarme quand nous, on ne la voit pas et qui va pouvoir nous aider à trouver. Mais mettre plus de discipline sur plus de discipline, ça ne peut pas avoir un bon résultat. C'est ça, moi, je pense, qui emmène au burn-out. C'est le toujours plus.
Et là, Magali, tu mets le doigt sur un sujet hyper intéressant, c'est vraiment le coaching. C'est-à-dire, soyez accompagnés. On voit qu'il y a de plus en plus de coachs. D'ailleurs, ne pas confondre un coach avec un psychologue ou un médecin, c'est important de le dire ici aussi. Moi, par exemple, j'ai pris un coach il n'y a pas si longtemps. J'adore nos séances hebdomadaires d'1h30 pour vraiment tout lâcher, échanger, parler stratégie, parler comment tu te sens. Il y a tout cet aspect global qui me fait un bien fou. Sabrina Touabé, pour ne pas la citer, qui est géniale. C'est vraiment important de se dire, en tant qu'entrepreneur, c'est normal d'avoir besoin de parler, Magali.
Bien sûr, c'est normal d'avoir besoin de parler et c'est essentiel d'avoir un tiers qu'on saura écouter. Parce que cette difficulté de l'entrepreneur, c'est qu'on peut finir aussi par se dire qu'on sait mieux que tout le monde. Et donc, c'est important d'avoir ce tiers qui dit « Non, mais là, stop, là. Là, stop. » Et qu'on soit capable de l'entendre.
Oui, ce n'est pas un coach qui est là pour tout accepter et tout valider, etc. C'est quelqu'un qui est aussi là pour dire « Attention, sois prudent parce que là, tu es peut-être en train de saturer, Joseph. »
Oui, tout à fait. Mais pour revenir au mot « discipline », c'est vrai que l'être humain, on arrive à se mettre une discipline pour « Ok, donner 1h30 de notre temps tous les jours à partir à la salle de muscu pour gagner du muscle, 20 minutes tous les matins pour créer l'objectif entrepreneur, pour gagner en productivité, mais on n'arrive pas à se mettre 10 minutes, 20 minutes par semaine pour prendre du temps pour nous, pour dire je vais voir un coach, je vais chez le psy, je vais me faire un massage. Et c'est là qu'il y a un problème de toujours vouloir être productif et pas penser à long terme. Et ouais, je pense qu'on n'est pas éduqué à ça, à se dire ok, il y a un moyen de gagner du muscle, il y a un moyen de gagner de l'argent, mais il y a un moyen de prendre soin de sa santé mentale.
Tiana l'a dit en disant, on a l'impression que si on en fait encore plus, ça va aller. Et moi, mon expérience, je considère aujourd'hui, c'est aussi ce que je dis à des clients coaching, c'est et si on essayait encore moins ? Parce qu'à un moment donné, notre puissance, elle vient de notre fraîcheur, elle vient de notre envie, elle vient de notre énergie. Elle ne vient pas du fait de pousser très fort un caillou qui va retomber. Donc, c'est pour ça que je reviens beaucoup sur ce sujet d'envie, d'essayer d'enlever ces trucs d'injonction, de discipline, etc. On peut être bon sans être à la dure, en fait.
Je trouve ça hyper intéressant, parce que je pense que c'est ce qui est en train de revenir, de venir un petit peu à la mode, entre guillemets. On parle aussi de slowpreneuriat. Toutes ces tendances qui consistent à dire prends ton temps, il vaut mieux faire moins de choses mais bien les faire et prendre du plaisir quand on les fait, parce que c'est quand même le propre de l'entrepreneuriat. Tiana,
j'aimerais quand même aussi déculpabiliser les indépendants, les entrepreneurs, parce que j'ai beaucoup de compassion pour eux, dans la mesure où quand on s'investit dans son entreprise, on investit aussi nos rêves, on investit notre temps, notre énergie, et donc parfois on se fond avec l'entreprise et c'est difficile de faire la distinction entre où commence notre identité et où commence celle de notre activité. Et personnellement, l'une des phrases, un des mantras que je me répète et qui m'aide aujourd'hui à être moins dans une phase de surmenage, c'est de me dire « je suis entrepreneur, mais je ne suis pas mon entreprise ». Donc, je n'ai pas à juger ma valeur sur la base des résultats de mon entreprise.
Oui, ça aussi, parce que la santé mentale, c'est beaucoup une question de pression qu'on se met. Mmh. Et qu'effectivement, si on n'est pas fier de soi, on se dit la pression augmente forcément, docteur.
Oui, je trouve aussi que la pression principale pour le chef d'entreprise, telle qu'il l'énonce en consultation, c'est la question de la gestion du temps. Encore une injonction qu'il se met. Et tous ces facteurs de stress au travail que sont le manque de trésorerie, la surcharge de travail et les incertitudes sur les carnets de commandes tournent autour de la question du temps et ce paradigme du temps. Et il faut qu'il commence à entendre que tout n'est pas que question de temps. Il ne faut pas réduire son champ de conscience à la question de la gestion du temps. C'est finalement quel est son désir à lui, pourquoi il accomplit ça, pourquoi il se lève le matin, pourquoi il a son entreprise, pourquoi il a éventuellement quelques salariés, quelle place il occupe là-dedans dans la société, dans son parcours de vie.
Et ça revient à l'idée aussi d'arrêter de se comparer, parce que souvent quand on se remet beaucoup en question comme ça et qu'on se dit je ne suis pas assez performant, etc., c'est parce qu'on se compare beaucoup. Je voudrais juste revenir sur la notion des coachs, parce que tu as beaucoup insisté, Joseph, en préparant cette émission. Tu m'as dit attention aux faux coachs ou ceux qui confondent conseil d'entrepreneur et approche médicale. Je voulais vraiment qu'on en parle dans cette émission.
Tout à fait, on est dans une ère des réseaux sociaux où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent coach. Coach, il faut savoir qu'il y a un vrai diplôme derrière, qu'il y a de l'expérience, et à ne pas confondre psychologue, psychiatre, coach, ça n'a rien à voir. Et malheureusement, là, si j'allume mon feed TikTok, une vidéo sur deux, c'est quelqu'un qui dit « Bonjour, je suis coach en anxiété, je vais te donner les meilleurs conseils ». Déjà, un coach, il y a différentes méthodes, mais dans la plupart du cas, tu ne donnes pas de conseils. Et finalement, tous ces conseils santé mentale qu'on retrouve sur les réseaux peuvent se retrouver à devenir un danger pour les jeunes qui les écoutent, parce qu'on tombe sur un ramassis de conneries.
Toi, t'es pas d'accord avec ça, Tiana ?
Il y a beaucoup de personnes qui alertent sur les faux coachs, et c'est nécessaire parce que le métier de coach est encore très peu réglementé. Cela dit, je pense qu'il est aussi bien important d'alerter que d'éduquer. Tout à l'heure, tu as fait la distinction entre le coach et le psychiatre. Donc, on le sait, le coach ne diagnostique pas. Il ne va pas non plus donner de solutions comme un consultant. Ce qu'il est supposé faire, c'est de pouvoir aider son client à mobiliser ses ressources personnelles pour atteindre des objectifs, tout en ayant une posture d'égal à égal. Le coach est vraiment là pour être le cheerleader, l'accompagnateur de son client.
L'oreille.
Aussi. En même temps, l'une des fonctions du coach, c'est d'être à même de rediriger le client si les besoins du coaché ne sont pas dans le cercle de compétences du coach. Notamment, il peut le rediriger vers des professionnels de la santé.
Et le coach aide finalement à prendre de la hauteur, du recul, à réfléchir sur sa santé mentale. Parce que quand on est seul, c'est des questions souvent qu'on ne se pose pas, Magali.
Tiana a dit quelque chose de très fort, c'est que finalement, notre risque en tant qu'entrepreneur, c'est de fusionner avec notre entreprise. Or, le risque d'une entreprise ou d'une petite entreprise ou d'une activité qui démarre, il y a un risque d'échec qui est très fort. Et là, qui fait peser une pression sur le chef d'entreprise qui est très forte. Cette dissociation entre soi et l'entreprise est l'essentiel. Moi, je trouve qu'un coach là-dessus est hyper intéressant parce que c'est le tiers neutre qui va avoir un effet miroir. Moi, l'autre endroit où j'ai vraiment trouvé le soutien qu'il a fallu quand ça devenait vraiment compliqué, c'est des clubs d'entrepreneurs. C'est-à-dire d'être dans des clubs entre pairs avec une vraie confidentialité.
Ouais, discuter, échanger, partager.
Avoir la recommandation du bon coach parce que je suis pas sûre. Moi, je rejoins Joseph. Je suis pas sûre que les réseaux sociaux soient le meilleur endroit pour choisir un coach au hasard. La recommandation est importante. Il y a des coachs qui ont des spécialités. Donc, selon le profil qu'on a, c'est pas tous le même coach. Et donc, voilà, je trouve que le groupe de pairs qui vit les mêmes choses que nous ou qui l'a vécu à d'autres étapes, c'est aussi un bon endroit.
On a parlé d'activité physique, on a parlé du fait de partager. Il y a d'autres méthodes pour préserver sa santé mentale. Dans le quotidien des indépendants, il y a quand même un piège, c'est la to-do list. C'est-à-dire, on se dit, il faut que je fasse ça. On a l'impression que c'est très structuré, mais en fait, on n'en verra jamais le bout. Et donc, on a ce sentiment de travail pas fini, finalement.
Moi, j'adore cette citation de Warren Buffett qui dit que la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui réussissent vraiment, c'est que les secondes disent non à presque tout. Et je pense que cette citation illustre le principe clé pour réussir à limiter la fatigue mentale et aussi réussir l'art de la priorisation. Et le problème, c'est qu'on a tendance à croire qu'on doit tout faire immédiatement, parfaitement, pour réussir. Le fait de jongler justement avec autant d'obligations, malheureusement, ça nous pousse au surmenage, ça sape notre énergie, notre capacité à se concentrer sur l'essentiel. Et c'est là que la to-don't list devient un outil crucial. Parce que la to-don't list, c'est finalement une liste de choses à ne pas faire. Quand on fait la to-don't list, ça nous permet d'éliminer les distractions, d'éviter d'accumuler des responsabilités déguisées en opportunités. Et ça permet également de faire la distinction entre l'important et l'urgent et de ce qui peut être éliminé et délégué.
Donc, ce n'est pas la liste qu'il faut faire, c'est la liste qu'il ne faut pas faire.
Exactement.
C'est vrai qu'il y a un vrai sujet là-dessus sur l'immédiateté. On reçoit un mail, on veut répondre tout de suite. On se dit, c'est aussi comme ça que je vais démontrer à mon client mon implication pour lui. Et donc, on évite un petit peu comme ça à passer son temps à switcher d'un sujet à l'autre. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué d'ailleurs. Moi, je le ressens en tant que chef d'entreprise et en plus, en ayant un podcast sur BFM Business, forcément, les journées sont très chargées. Et la difficulté à switcher constamment fait qu'on peut se retrouver des fois dans des situations où on n'a plus de jus, quoi. On s'amouline plus, quoi. Magali.
Alors moi, j'ai un truc assez simple parce que je peux switcher beaucoup. C'est quand j'ai vraiment besoin de produire quelque chose, c'est de me lancer dans la production, alors d'une note, d'un article, sur toutes les plateformes de musique, il y a des listes qui s'appellent concentration.
Ça marche bien, ça.
Ça marche super bien. C'est pour ça, quand je dis qu'il y a des petits trucs, voilà, la première fois, et j'en ai une que j'écoute quasiment en boucle, et ça crée vraiment un espace de concentration où je ne pense plus à mes mails. C'est pour ça qu'il faut vraiment revenir aussi un peu à des basiques qui permettent de se mettre du confort et de travailler une bonne heure d'affilée.
J'adore ce discours, Magali, parce que c'est de rappeler que voilà, c'est des petites choses. C'est des petites choses qui font la différence. Pas besoin de grandes révolutions dans l'organisation de vos journées, mais posez-vous la question, est-ce que je prends soin de ma santé mentale? Ouais. Comment je peux améliorer les choses pour me sentir mieux le soir, me sentir plus serein? Moi, j'ai intégré une pratique quotidienne. C'est que le soir, je prends le temps de me remercier, de me féliciter sur ce que j'ai réussi. Donc, c'est vraiment un instant sur mon canapé à me poser et à me dire « Ludo, bravo, t'as réussi à faire ça aujourd'hui. » Parce qu'avant, je me rendais compte que j'étais bloqué sur ce que je n'avais pas réussi.
François, tu m'en avais parlé, ça, de la gratitude, l'effet que ça avait sur le corps.
Oui, bien entendu. Là, on rejoint encore des sécrétions de neuromédiateurs biochimiques. Désolé pour ces termes un petit peu techniques.
Non, mais c'est intéressant parce qu'on voit que c'est médical.
C'est ça.
Absolument, absolument. Tout commence, en fait, par une phase d'alarme où les gens fabriquent de l'adrénaline pour tenir bon, pour affronter le quotidien. Et puis, ils s'épuisent petit à petit, ils se fatiguent petit à petit, une phase de résistance, où ils se mettent à fabriquer beaucoup de sérotonine, la fameuse hormone de la dépression quand elle est en manque. Donc, ils tiennent bon grâce à leur sérotonine. Et puis, après, arrive une phase d'épuisement qu'on appelle le burn-in. Et là, le taux de sérotonine s'effondre. Du coup, ils ont des troubles du sommeil, ils sont anxieux, ils s'isolent, il y a une perte d'entrain, un manque d'envie.
Et c'est à ce moment-là qu'on peut tomber dans des addictions, par exemple.
Exactement. Et c'est compensé par quoi? Par une augmentation du taux de cortisol, encore une autre hormone, encore un gros mot, et qui permet, elle, de tenir bon, d'épuiser les dernières cartouches disponibles, sauf que ça produit de l'hypertension, du stress, des troubles du sommeil, des troubles immunitaires, et au bout du compte, tout s'effondre. Il n'y a plus de sérotonine, la dopamine s'effondre, le cortisol s'effondre, c'est le burn-out, et là, c'est grave. Ça ne relève plus du coaching, tout bienveillant qu'il soit, ça relève vraiment de soins médicaux. Le problème, c'est que le chef d'entreprise, nous, dans notre pratique, il consulte qu'à ce moment-là, et encore, ce n'est même pas lui qui demande. C'est effectivement, comme disait Magali tout à l'heure, c'est son entourage. C'est une personne de confiance qui l'amène à la consultation en disant « faites quelque chose, il va mourir ».
Ouais, c'est là où on voit qu'on est sur un vrai sujet qui n'est pas un sujet gadget, qui n'est pas un sujet de confort, qui est un sujet de société, surtout quand on voit l'explosion du nombre d'indépendants et pour en connaître beaucoup, notamment des nouveaux indépendants, beaucoup ne sont pas préparés à ça. Donc c'est vraiment un choc. C'est un choc autant dans son quotidien, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. On se dit, oula, je ne savais pas qu'il fallait être multicasquette à ce point-là. Et puis évidemment, la santé mentale, c'est le dernier sujet. Ce qu'il faut, c'est que la boîte, elle tourne. Joseph.
Et oui, récemment, j'ai fait une rencontre et on m'a parlé justement du lien entre la gestion du temps et l'entrepreneuriat et la santé mentale. Et le pote entrepreneur, il me raconte que lui, quand il fait son planning, il ne se fait pas une to-do list énorme, compagnie et tout. Il prend son planning et obligatoirement avant, il se pose 2 heures dans la semaine où c'est des heures où il se détend. Donc lui, pour être honnête, hein, il y a l'heure de la muscu qui ne bougera pas tous les mercredis et il y a le petit date Tinder qui place dans la semaine. Il dit, une fois que j'ai posé mes 2 rendez-vous détente, là, je peux fixer tous mes calls, tous mes rendez-vous pro et tout. Mais moi, ça va me dire que niveau santé mentale, niveau gestion du stress, j'ai les 2 petits rendez-vous quotidiens qui vont me faire du bien.
Enfin, d'accord, mais ça fait un peu quand même jusqu'au rapport sexuel qui sont planifiés dans l'agenda le mercredi entre 15h et 16h.
Ben, le problème, c'est que s'il ne fait pas ça, et que tous les entrepreneurs, voilà, à la fin, tu n'as plus de temps pour toi. Tu ne vois pas ta famille, tu ne vois pas ta copine, tu ne vas pas à la salle, tu perds du poids. Moi, si je dois comparer tous les entrepreneurs anxieux que j'ai vus et lui, sa méthode, je la trouve incroyable. De planifier 2 rendez-vous détente, peu importe, hein, copine ou pas, et de se dire, ils bougeront pas.
Magali, c'est de la discipline, là, pour le coup.
Oui et non. C'est-à-dire que j'ai dit, il faut trouver les choses qui nous font du bien. Donc, par exemple, une autre chose facile à faire, c'est d'aller se faire masser par quelqu'un qui est vraiment masseur, pas dans un centre d'esthétique, hein, mais il y a des massages qu'on appelle les massages thérapeutiques. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand on prend le rendez-vous dans le mois, quand on y va, de reprendre tout de suite le rendez-vous pour le mois d'après. Oui, là, il y a une discipline.
C'est une prise de conscience plus qu'une discipline.
Voilà, je repars pas sans avoir pris mon rendez-vous parce que je sais que si je l'ai pas repris, il va falloir que je téléphone. Enfin, voilà. Donc, et de trouver les trucs qui font du bien. Donc après, moi, je ne juge pas. Voilà, si ce qui te fait du bien, c'est un rendez-vous Tinder, c'est un rendez-vous Tinder. Je veux dire, tu vois, ça ne pose pas de problème. Il faut quand même revenir à ce que nous dit François sur ce qui se passe dans notre corps. Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va générer ces bonnes hormones? Et ça, c'est hyper personnel. Moi, je pense qu'il faut même tâtonner un peu, s'autoriser à essayer des trucs. En fait, le critère, c'est quand je ressors de ce que j'ai fait, je me sens mieux qu'en rentrant. Mmh. Et ça marche aussi pour un coach. Moi, quand j'ai des copains qui me disent « Ah, j'ai vu mon coach, je suis sortie, là, j'étais détruit. » Bah, change de coach. Hein. Enfin, si tu ne vas pas mieux en sortant, change de coach. Mm-hmm. Et c'est ce critère-là.
Le coach, il n'est pas non plus là pour faire que tu te remettes en question de folie à chaque
fois. Il doit clore la séance, tu ressors, tu vas mieux.
Ouais. Voilà. Tiana.
Depuis tout à l'heure, on parle de gestion du temps. Et dans ce qu'a dit Joseph, ça me fait dire en fait, qu'il y a quand même une distinction entre la gestion du temps et la gestion de l'énergie, au final.
Oui, c'est ce qu'on s'est dit, effectivement. Là, il faut bien dissocier les deux. Mm. Et ce n'est pas parce qu'il nous reste du temps pour faire une tâche administrative le week-end,
on a l'énergie pour. Exactement.
Mmh.
Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit très tôt intégrer ces distinctions et se dire, la gestion du temps, c'est réussir à organiser mes heures de façon intentionnelle, prioriser mes tâches, maximiser ma productivité et respecter l'emploi du temps précis. OK, la gestion de mon énergie, c'est me concentrer sur mes cycles d'énergie émotionnelle, mentale, physique et prendre en compte que je ne serai pas aussi motivée et efficace à tous les moments de la journée. Et sur la base de ça, je comprends que je dois mettre en place des routines pour recharger mon énergie ou économiser celle que j'ai.
Et c'est là où on en vient et on aborde souvent ce sujet. Pensez à déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire. Gardez-vous du temps et surtout, gardez-vous de l'énergie. Et les entrepreneurs novices, souvent, voient la délégation comme une dépense parce qu'ils se disent « Ah, il reste du temps. Et puis sinon, je le mettrai sur mon dimanche. » Ils n'anticipent pas effectivement l'impact sur le moral, sur l'énergie, etc.
Ce qui me vient aussi, c'est de me dire que c'est la question de l'individualisation. Et tout le monde en parle un petit peu à sa manière. En fait, on ne soigne pas un trouble anxieux chez Ludovic Badaud. On soigne Ludovic Badaud dans sa globalité, qui est entre autres un trouble anxieux. Le burn-out ou le burn-in, peu importe, enfin, l'épuisement psychologique chez le chef d'entreprise apparaît sur des mois, sur des années, à l'insu de son plein gré, de manière insidieuse. Il ne s'en rend pas compte. Mm-hmm. Il est dernier à s'en rendre compte. Tout son entourage lui a dit, ses enfants, ses parents, ses amis, ses collègues, on dit, mais ça va pas du tout, là, il y a ci, il y a ça. Et ce sont vraiment les derniers.
Et lui, il est dans le déni.
Oui, c'est ça.
Quand il rentre dans votre cabinet, docteur, vous rencontrez les entrepreneurs, ça fait des années qu'ils sont dans le déni.
Oui, mais quand il rentre dans le cabinet, c'est bon. C'est-à-dire que la moitié du traitement est fait. C'est-à-dire qu'il concède, il avoue qu'il a un problème et qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul et qu'il a besoin d'aide. Il vient voir une personne présumée de confiance pour se prendre en charge.
C'est une démarche qui est compliquée, ça, d'ailleurs, d'aller chez le médecin et de se dire « Ok, j'ai un problème de santé mentale », c'est compliqué.
Mais très souvent, avant qu'il consulte pour lui-même, on a entendu dans son entourage, ses enfants, sa femme, son mari, dire « Il a un problème, il ne veut pas consulter, je lui dis que… » Et il arrive vraiment sous prétexte d'autre chose, en général. Il a mal au dos depuis 6 mois, ça ne passe pas. Il a des crises de migraine qui perdurent. Dans le temps, ça ne va pas. Il a des troubles immunitaires récurrents, c'est-à-dire son corps en dit quelque chose d'un mal-être, mais c'est pas lui, effectivement, qui va l'énoncer comme ça. Et on est obligé de faire le lien entre la question du corps, comme disait Magali, et la question d'un mal-être psychologique pour lui rappeler qu'effectivement, il faut être à l'écoute de son corps, que son corps est en train de lui dire quelque chose.
C'est vraiment accepter, se poser les questions et ne pas être mal à l'aise face aux questions de santé mentale qui nous touchent tous. On parle de l'entrepreneuriat, mais les salariés, c'est pareil, sont évidemment concernés. On est tous concernés dans une société quand même qui va de plus en plus vite et qui est de plus en plus exigeante. Magali.
Il y a un sujet qu'on a effleuré mais pas abordé, c'est le sujet des émotions. Quand je suis dans une entreprise où je me demande si je vais avoir assez de cash à la fin de l'année, ben, logiquement, j'ai peur. Quand j'ai du stress parce que je suis sur une négociation avec un gros prospect et que ça fait des mois que ça dure, j'ai une montée de stress et d'impatience. Et l'effet de la gratitude sur le corps produit vraiment, c'est démontré, ça produit les hormones qui sont positives pour notre bien-être. Mais toutes ces émotions qui parfois nous submergent, si on les accueille pas, si on met pas de nom dessus, si on se dit pas, ben là, j'ai peur. Et ça, quel chef d'entreprise dit là, j'ai peur de ne pas finir l'année. En plus, on vit dans un storytelling des réseaux sociaux où toutes les startups, ça va hyper bien. Tout le monde va hyper bien jusqu'au moment où ça ne va pas bien. Et donc, si tu as cette émotion et que tu as l'impression que tu es le seul ou la seule à la voir, tu la refoules. Et ça, je pense que médicalement, c'est la pire chose à faire.
C'est vrai qu'on vit aussi dans une société où c'est compliqué d'échouer.
Particulièrement dans notre culture française. Je pense que les cultures anglo-saxonnes sont très différentes à ce niveau-là.
Et quand on a peur d'échouer parce qu'on sait que la situation économique n'est pas bonne dans son entreprise, c'est terrible de se projeter dans cet échec et ça ajoute encore à la santé mentale.
Moi, je me demande si c'est pas le moment où finalement on bascule dans le burn-out, c'est-à-dire dans ce truc qui finit par nous envahir. Tiana l'a dit, c'est un peu notre bébé, on l'a créé. Et puis quand tous les jours, on se dit, mais est-ce que dans 3 mois, dans 6 mois, on sera encore là? Et est-ce que je suis une incapable par rapport à tous les autres qui y arrivent? C'est énorme à gérer. Et on ne peut pas le gérer tout seul. Donc, on revient au tiers de confiance, au groupe de pairs, où on peut poser ça sans égo. Enfin, Joseph a utilisé le terme d'égo, c'est hyper important. Ouais. C'est-à-dire que le chef d'entreprise doit prendre soin de lui et avoir son égo qui est au bon niveau et au bon endroit.
Entre confiance en soi et...
Et réalisme, je dirais.
Tiana.
J'aime beaucoup ce que vient de dire Magali, parce que je ne l'ai pas mentionné plus tôt. Mais moi, quand je me suis déconnectée de mon travail parce que j'étais surmenée, épuisée, j'ai consulté un thérapeute et j'ai particulièrement en fait travailler mon rapport à l'échec et à la réussite. Et je me suis rendu compte qu'en effet, pour moi, réussir, c'était une façon d'obtenir la reconnaissance dont j'avais besoin et dont j'avais manqué beaucoup plus jeune. Donc c'est intéressant, à mon sens, de ne pas forcément attendre ces signaux pour consulter, mais aussi potentiellement, quand on commence une entreprise, de se dire, est-ce que j'ai des fondations saines psychologiquement pour pouvoir mener à bien mon projet d'entreprise.
Ouais, c'est hyper intéressant.
Ouais, et après, c'est un moteur aussi, hein, parce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut être sacrément déterminé. Et quand on a besoin de prouver par rapport au passé bah, qu'on peut réussir, c'est aussi un moteur assez puissant qui peut être aussi un talon d'Achille, c'est vrai.
C'est ça.
Docteur.
Oui, ce que je voulais dire aussi, rebondissant sur tout ce qui vient d'être dit, c'est que très souvent, quand le chef d'entreprise consulte, il vit la consultation déjà comme un échec. Or, l'idée, c'est là aussi le faire travailler sur ses paradigmes, ses représentations de sa propre existence et se dire, bah, finalement, dans votre parcours de vie, qu'est-ce que ça veut dire, cette notion d'échec? Cette entreprise qui ne fonctionne pas comme vous voudriez ou vous-même qui n'arrivez pas à subsister tel que vous le désireriez. Et finalement, c'est transformer ça un peu en mode sans échec en disant, bah, ça a du sens, ça fait quelque chose, il va falloir faire résilience là-dessus, il va falloir reconstruire autre chose, différent. Finalement, c'est une leçon de vie. Ça vous permet de grandir. Et très souvent, ça leur permet là aussi d'avoir le sentiment de garder la main pour repartir dans une direction plus sereine.
J'adore cette émission qui aborde la santé mentale avec pragmatisme, avec le sourire aussi, parce que c'est pas un sujet dramatique. Il nous reste 30 secondes pour conclure, 30 secondes peut-être pour partager un dernier conseil, donner un dernier point de vue sur les questions de santé mentale, Joseph.
Bah moi, j'aimerais juste qu'on parle du terme leader en santé mentale, parce qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, on a l'impression qu'il faut être un leader sans émotion, montrer l'exemple, productif et gagner beaucoup d'argent. Mmh. Et moi, j'aime bien parler de ça avec mes salariés et leur dire, regardez, moi-même, j'ai déjà pleuré par rapport à ma startup, moi-même, j'ai mal dormi hier parce qu'on n'a pas gagné beaucoup d'argent, moi-même, j'ai des émotions positives et négatives. Et ouais, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on doit être les premiers à éduquer, à alarmer nos salariés et leur dire « Hey, la santé mentale, c'est pas que là, c'est pas qu'à la télé, ça commence par nous, faut en parler entre nous. » Et c'est comme ça qu'on ira de l'avant et qu'on ira loin.
Être très serein avec ses émotions.
Ouais, dire qu'il n'y a pas de tabou. Les émotions, ta maman, elle en a, j'en ai eu, nos collègues en ont.
C'est ce qui nous rend humains.
Exactement.
Magali.
S'il y avait un dernier mot, une chose à retenir de ces échanges pour tous ceux qui entreprennent, c'est que c'est pas normal d'avoir mal au dos pendant des mois. C'est pas normal d'être enrhumé de septembre à février. C'est pas normal de se tordre une cheville en permanence. Tous ces signaux du corps, il faut les entendre. C'est essentiel parce que on peut être entrepreneur et avoir du confort.
Tiana.
Pour moi, l'ambition saine repose aussi bien sur les objectifs ambitieux que l'on a, mais aussi sur l'évaluation réaliste de nos capacités. C'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. sens. Et personnellement, j'encourage énormément mes clients à planifier moins, mais mieux. Dans la mesure où se pousser constamment, être beaucoup dans l'action, ça permet en effet d'avoir des résultats à court terme. Mais c'est parce qu'on mobilise ses compétences en étant à l'écoute de ses ressources personnelles qu'on peut tenir sur le long terme. En bref, c'est la meilleure façon de viser haut sans se brûler les ailes.
Prendre soin de soi, c'est investir dans son entreprise puisqu'on est son entreprise, même s'il ne faut pas confondre les deux. Le mot de la fin, docteur François Mullet.
Qu'est-ce que je pourrais conseiller à un chef d'entreprise qui a priori va bien? C'est de consulter, même si a priori il va bien, de consulter tôt, d'être suivi en fait, tout simplement, et de repérer, nous, dans l'entretien, qu'est-ce qui va nous faire red flag, qu'est-ce qui va être annonciateur éventuellement d'un mal-être, l'anxiété, l'isolement, des sautes d'humeur, des troubles du sommeil, qui déjà vont nous alerter sur un mal-être plus général, et pas attendre le stade de burn-out où effectivement, là, il y a urgence à faire quelque chose et souvent à en venir à des thérapeutiques lourdes, conventionnelles. Et d'ailleurs, l'OMS entend bien cette notion de médecine intégrative qui associe différentes techniques de prise en charge, conventionnelles, non conventionnelles. Et dans les techniques non conventionnelles, il y a le self-care avec le coaching. C'est votre place ici qui a toute sa place en prévention et en prise en charge du mal-être du chef d'entreprise.
C'était très intéressant d'échanger sur ce sujet avec vous. J'espère que ça aura fait réfléchir, que ça aura donné des clés à ceux qui nous écoutent. C'est donc la fin de l'épisode 4 du podcast des Indépendants, saison 3 sur BFM Business. On se retrouve, je vous rappelle, un mercredi sur deux sur toutes les plateformes et cette année aussi en vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter. À bientôt.
C'était le podcast des Indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.